Bonjour et bienvenue à notre émission Les Petites Voix francophones.
Nous sommes deux élèves de l'école publique La Grande Ourse. Je m'appelle Émile et je suis en cinquième année.
Je m'appelle Eva et je suis en septième année.
Nous sommes ici avec Kayla qui nous aide avec la production.
Nous avons pensé et produit cette émission avec nos camarades Kayla et Kenzie avec l'aide de Madame Anne, notre ambassadrice culturelle francophone.
L'idée de cette émission est de donner la parole aux francophones et francophiles qui habitent dans la vallée. Notre école appartient au Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique.
Vous écoutez à CICK 93.9 FM, la radio communautaire de Smithers, située sur le territoire non cédé des Gidimden de la vallée de la Nation Wet'suwet'en.
Merci à l'association Accounting on Broadway pour avoir sponsorisé cette émission.
Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir à notre micro Nathalie Brassard.
Bonjour Nathalie, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Émile, bonjour Eva. Je suis bien contente d'être ici avec vous aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée.
Pour commencer, peux-tu nous parler de tes origines? Où es-tu née? Où as-tu grandi?
Je suis originaire du Québec, originaire de la région du Témiscamingue. Donc, c'est une région au nord-ouest du Québec, qui est près de la frontière de l'Ontario. Et c'est là que toute la parenté est pour moi. Donc, tous mes oncles, tantes, cousins, cousines sont presque tous dans cette région-là. Et j'y ai habité pendant environ 50 ans. Cinq années. Et ensuite, je me suis dirigée vers la région du Grand Montréal, tranquillement, et j'ai fait des allers-retours. Mon père était transféré à tous les 3 ans, donc je déménageais à tous les 3 ans, un peu partout à travers le Québec. Donc, quand on me demande d'où je viens un petit peu partout à travers le Québec, mais ma parenté vient de l'Abitibi-Témiscamingue.
Retournes-tu souvent au Québec?
Oui, je m'ennuie. Je suis contente d'être ici, mais je m'ennuie du français, je m'ennuie de la culture québécoise. Donc, j'y retourne un minimum de 2 fois, sinon 3 fois par année. Quand mes filles étaient petites, j'y allais au moins 3 fois par année pour qu'elles puissent être exposées à la culture francophone puis apprendre, être entourées de francophones. Et à présent, ma mère est rendue quand même assez âgée et je retourne la voir régulièrement pour passer du temps avec elle puis voir mes frères en même temps. Donc, un bon 3 fois par année, je passe facilement une dizaine de semaines par année au Québec.
Parlais-tu français avec tes parents?
Oui. J'ai toujours parlé français. En fait, je n'ai pas parlé anglais vraiment jusqu'à temps que j'aille à l'université. J'étais à l'université McGill, mais avant ça, je parlais très peu d'anglais. Donc, j'ai été tellement en français. On a toujours parlé en français à la maison. Et ça a été notre langue, vraiment notre langue maternelle. Et on continue de se parler toujours en français. Je dois dire qu'à présent, si je peux continuer sur ça, c'est la langue dans laquelle j'ai été élevée. Et c'est aussi, même si mes filles ont été élevées en Colombie-Britannique, à Smithers, c'est la langue que j'ai choisi de parler à la maison avec mes filles aussi. Donc, ensemble, mes filles et moi, on a toujours parlé en français. Et mon conjoint est anglophone du Québec. Donc, elles parlaient en anglais avec leur papa, puis elles parlaient en français avec moi. J'ai eu la chance de pouvoir parler en français même une fois rendu ici parce qu'on se parlait ensemble à la maison.
Merci, Nathalie, pour ces réponses.
Nous sommes aussi curieux de connaître ton parcours scolaire. Dans ton enfance, as-tu fréquenté une école francophone?
Oui, j'ai toujours été, encore là, j'ai fait mon primaire, mon secondaire et mon cégep, tout en français. J'ai fait mon primaire un petit peu partout, en Abitibi-Témiscamingue, dans les Laurentides, dans la région de Montréal. Primaire, oui. Et puis mon secondaire, surtout dans la région de Montréal, aussi mon cégep. Et à partir de l'université, j'ai décidé que je voulais apprendre l'anglais. Donc, je me suis forcée à aller dans une université anglophone pour pouvoir apprendre l'anglais. Puis la première année, je comprenais absolument rien de ce qu'on me disait. On me donnait mes cours, puis je prenais des notes sans vraiment rien comprendre. Puis je l'ai appris tranquillement. Donc, ça a été quasiment tout en français, sauf pour mon université. Est-ce que j'étais... OK, voici.
Étais-tu une bonne élève?
Oui, j'étais une très bonne élève. Je ne vais pas me vanter, là, mais j'étais bonne. J'écoutais, je faisais attention, je mettais beaucoup d'efforts dans mes travaux, j'aimais bien faire, mais j'étais chanceuse parce que j'étais capable de bien faire. Il y en a qui mettent beaucoup d'efforts, qui ont de la difficulté. Moi, je mettais de l'effort, puis ça marchait pour moi. Donc, j'ai été chanceuse. Puis, j'ai toujours aimé l'école. J'ai rarement pas aimé aller à l'école. Ouais.
Nous allons maintenant parler de ta vie ici dans la vallée.
Depuis combien de temps habites-tu à Smithers?
Ça fait 26 ans que j'habite à Smithers. On est déménagé ici en janvier 97, puis tout de suite après que mes filles soient nées, j'ai des jumelles, j'ai deux filles qui sont nées en même temps, presque en même temps, et elles sont nées à Vancouver, puis on ne voulait pas élever nos filles à Vancouver. Alors, on a décidé qu'on s'ennuyait de la neige, puis on a décidé aussi qu'on voulait élever nos enfants dans une petite place, donc on s'est dirigé vers Smithers. Ça fait déjà 26 ans de ça.
Pourquoi est-ce que tu as choisi Smithers et pas Terrasse ou Prince-George?
Ah, c'est une bonne question. Parce qu'on était venus faire une petite visiter des amis, puis les gens de Smithers nous avaient vraiment touchés. On avait trouvé la communauté très, très accueillante. On trouvait les gens faciles à approcher. On avait quelques amis ici déjà. Et on trouvait qu'il y avait beaucoup d'opportunités pour faire du plein air. On s'ennuyait de la neige et de l'hiver, alors c'était quelque chose d'important pour nous. Et on s'est dit que ce serait une belle communauté pour élever nos enfants, nos filles. Ça avait l'air d'une belle place sécuritaire, loin du trafic. Ouais.
Peux-tu nous parler de ton travail?
Oui. Je suis à l'origine, ma profession, je suis diététiste, donc j'aide les gens à bien manger, à savoir quoi manger pour vivre sainement. Mais ça fait plusieurs années que je travaille plus en nutrition et je m'occupe d'une petite entreprise, d'un petit organisme à but non lucratif qui donne des formations sur l'alcoolisation fœtale. Savez-vous qu'est-ce que c'est l'alcoolisation fœtale?
Non.
Non? Alors, j'aide les professionnels puis les parents qui s'occupent d'individus qui sont affectés parce qu'ils ont été exposés à l'alcool pendant qu'ils grossissaient dans le ventre de leur mère. Alors, moi, je suis là pour aider les gens qui peuvent peut-être fonctionner différemment en société pour s'assurer qu'ils fonctionnent bien, qu'on les comprenne bien, puis qu'on puisse les aider à avoir du succès dans la vie. Alors, c'est ça que je fais. C'est un petit organisme américain. Puis je suis chanceuse, je peux travailler d'ici à Smithers. Puis on donne des formations un petit peu partout à travers le Canada et les États-Unis. Ouais.
Aimes-tu ton travail?
Beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup mon travail parce que je connecte avec plein de gens différents. Et aussi parce que je fais une différence dans la vie des gens. Je sais qu'on aide les gens à... Je m'assure que les gens sont mieux compris. Puis les gens qui, à date, n'étaient peut-être pas compris par soit leur professeur, par leurs parents, par leur employeur. Puis j'aide la société à les comprendre mieux et à les aider à avoir du succès dans la vie de tous les jours. Puis ça me remplit, ça remplit mon cœur. Je sens que je fais une différence dans la vie. Puis j'ai une belle équipe, puis je rencontre plein de gens intéressants tout le temps. Donc, j'adore mon travail.
Parles-tu français à ton travail?
Pas beaucoup. Je travaille avec beaucoup d'Américains, donc eux autres ne parlent pas français. Mais une partie de mon travail, c'est avec les gens du Nunavik, donc le territoire tout nord du Québec. Et donc, quand je travaille avec les gens du Nunavik, j'ai la chance de travailler avec des Inuits qui parlent français et des gens du sud aussi qui parlent français. Donc, à l'occasion, j'ai des petits bouts de travail où j'ai la chance de parler français. Puis ça, c'est toujours plaisant quand je peux faire ça.
Quels sont tes passe-temps préférés?
Ah, mes passe-temps préférés, j'en ai tellement. J'aime beaucoup tous les sports de plein air. Donc, j'aime beaucoup faire de l'escalade de roche. Avez-vous déjà grimpé? Avez-vous déjà fait de l'escalade
oui.
sur roche?
Oui? Oui. J'adore ça.
T'adores ça? J'ai vu tes yeux s'allumer quand j'ai dit de l'escalade. Eva, tu as déjà fait de l'escalade?
Oui, beaucoup.
Beaucoup aussi? Ah, c'est bien. Donc, j'adore faire de l'escalade. On fait de la randonnée, du ski. Là, c'est le temps de mettre nos jardins. Donc, j'aime jardiner. J'aime, en fait, faire de la randonnée aussi, faire des randonnées de plusieurs journées avec mon sac à dos, faire du vélo. Tout ce qui est plein air, puis à la maison, ben c'est sûr, j'aime faire de la lecture, faire du bricolage, puis des choses comme ça. Puis j'ai un chien à la maison, donc je passe beaucoup de temps avec lui, le faire marcher, puis m'amuser, puis lancer les balles.
Yeah. Pourquoi le français est une langue importante pour toi?
Ben c'est la langue dans laquelle j'ai été élevée, hein? C'est mes racines. C'est, ça me connecte à toute ma famille, à tout l'endroit d'où je viens, à toute l'histoire. Et puis, je sais pas, c'est une langue pour moi qui est spéciale parce qu'elle me permet de m'exprimer d'une façon que je suis pas capable de m'exprimer en anglais. Je le parle couramment en anglais, mais c'est pas pareil. C'est une langue qui est plus chaleureuse, qui me donne plus de liberté. Donc, c'est ma langue à moi. Puis c'était important d'élever mes filles avec cette langue-là parce que j'ai l'impression que si je l'utilisais pas, je laissais une partie de moi. Ça fait partie de qui je suis, le français.
Quelle est ta chanson préférée?
Ah, ça, vous m'avez demandé pour des chansons préférées, hein? Puis c'était difficile à trouver, j'en ai énormément. Mais mon premier choix, ça a été la chanson, une chanson d'une artiste que j'ai découvert dans les deux dernières années, Roxane Bruno. Et chaque fois que j'entends sa voix, puis surtout la chanson « Partout », cette chanson-là, elle a tellement une belle voix, Roxane, puis elle raconte bien. Cette chanson-là me donne la chair de poule parce qu'elle me rappelle qu'à tout moment, on est plusieurs, on va se sentir seul. Chacun d'entre nous va se sentir seul, mais il faudrait réaliser qu'on n'est pas les seuls à se sentir seul et qu'on est plusieurs à se sentir seul. Donc, il faut se souvenir qu'il y en a d'autres comme nous là-bas. Donc, ça a été mon premier choix, c'est « Partout » de Roxane Bruno.
Thank you.
quel est le mot ou l'expression française que tu préfères?
Oui, ça c'est tellement difficile pour moi de trouver une expression française que je préfère. Parce qu'une des raisons pour laquelle j'aime beaucoup la langue française, c'est que c'est une langue qui te permet d'utiliser énormément d'expressions comparativement à l'anglais, je trouve. Et ce que j'aimais en français, même avant de déménager ici, c'est qu'avec le français, j'inventais des expressions tout le temps. Donc, je me fais des expressions, c'est une langue imagée, et je m'amusais à créer de nouvelles expressions, puis les gens comprennent. Donc, j'ai fait la même chose, j'ai pris cette habitude-là en anglais. Donc, je crée des expressions en anglais, puis les gens me regardent toujours un petit peu, mais qu'est-ce que tu essaies de communiquer ici? Puis je trouve ça un peu bizarre, parce qu'en français, ça passerait, mais en anglais, les gens ne comprennent pas nécessairement les expressions. Donc, j'ai pas été capable de trouver une seule expression, parce que j'en ai trop, mais mes filles m'ont toujours dit que j'avais un langage très imagé. Donc, j'en utilise beaucoup, beaucoup des expressions dans la vie de tous les jours. Puis, je pense que je m'en rends pas compte, les gens, les expressions que j'utilise. Mais ce matin, je me souvenais que quand j'étais petite, on se parlait, quand j'étais avec mes parents, je leur demandais pour un bec à pincettes. C'est vous, c'est quoi ça, un bec à pincettes? Non? Un bec à pincettes, c'est quand tu donnes un bec à quelqu'un, tu leur tiens les deux joues comme ça, là. Vous ne pouvez pas me voir à la radio, là, mais tu tiens les deux joues de la personne à qui tu donnes un bec, puis tu leur pinces les joues, mouah, puis tu leur donnes un gros bec. Puis ça, on appelle ça un bec à pincettes. C'est une expression qu'on avait avec mes filles quand j'étais plus petite, où lorsqu'on se couchait le soir, c'était toujours avec mes enfants, je leur disais toujours. Bye, bonne nuit, fais des beaux rêves à demain. On avait toujours la même chanson. C'est la chanson avec laquelle j'ai été élevée. C'était la série de mots que ma mère me disait. C'était Bye, bonne nuit, fais des beaux rêves à demain. Alors, j'ai toujours fait la même chose avec mes enfants. Donc, c'est une grande réponse sans trop de réponses, mais j'ai plusieurs expressions. C'est difficile à me souvenir.
Est-ce que c'est difficile pour toi de t'exprimer en français ici dans la vallée?
Non, genre, les gens de la vallée apprécient énormément le français et sont très curieux du français. J'ai beaucoup d'amis anglophones qui sont francophiles, alors qui sont curieux, sont intéressés, puis ils veulent m'entendre parler français. Donc, je trouve que je le parle souvent, puis je trouve qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de francophones dans la vallée ici et là. Donc, je le parle beaucoup plus souvent que j'aurais cru. Quand mes filles habitaient encore dans la communauté, partout où on allait, notre première langue, peu importe où on était, si on était dans un café, dans un magasin, on se parlait toujours en français, peu importe qui était autour de nous. Donc, je parlais plus à ce moment-là. Mais même à présent qu'elles sont parties, parce qu'elles sont grandes, je le parle, je dirais, plusieurs fois par semaine. Puis je trouve que je suis pas rouillée. Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire, cette expression-là, ne pas être rouillée?
Oui et non.
Oui et non. Ça veut dire ne pas perdre son français. Il n'est pas difficile à aller chercher parce que je le parle assez souvent. C'est pas rouillé comme du vieux métal qui a été laissé en arrière sous la pluie.
Tu disais que tu parlais français avec les enfants?
Oui, j'ai toujours parlé. Ça n'a pas été facile, hein. Quand elles étaient petites, elles parlaient les deux langues. Puis parfois, elles voulaient être un petit peu. Elles étaient un petit peu réticentes, puis elles me parlaient en anglais. Et moi, je faisais comme si je les entendais pas quand elles me parlaient en anglais. C'est comme si j'étais sourde. Puis je les entendais juste quand elles me parlaient en français. Pour certains, ça paraissait un petit peu dur, mais pour moi, c'était la seule façon de m'assurer qu'elles pousseraient un petit peu puis qu'elles continueraient à me parler en français. Puis ça a marché. Et puis, lorsqu'elles sont parties de la maison, elles se sont rendues compte qu'elles s'ennuyaient de parler français. Et une de mes filles, dernièrement, m'a appelée, puis elle a dit, Maman, quand tu m'appelles, là, tu me parles un petit peu trop en anglais à cette heure. Peux-tu t'assurer que tu recommences à me parler en français parce que je m'ennuie? Puis ça me fait tellement chaud au cœur. Fait que là, on fait des gros efforts parce que des fois, on a des mauvaises habitudes, puis on perd l'habitude. Alors, je leur ai toujours parlé en français et ça continue jusqu'à ce jour. Elles ont 26 ans.
Peux-tu nous partager une tradition francophone que tu aime pratiquer?
Une tradition francophone. Pour le temps de Noël, les francophones ont fêté Noël, ben chez moi en tout cas, on fêtait Noël, la veille de Noël. Donc, on avait un gros réveillon, puis on se couchait très, très tard la veille de Noël. Et c'était le soir du souper, du grand festin pour nous, les francophones. Alors, ce que je fais encore jusqu'à présent, puis mes filles sont habituées à ça, c'est que la veille de Noël, c'est notre gros repas francophone avec du ragoût de pâte de cochon puis de la tourtière. Et mes filles, cette année, ont commencé à apprendre comment le préparer parce qu'elles veulent continuer cette tradition francophone-là, la veille de Noël. Puis l'autre chose que je fais, qui, ben, je sais pas, c'est pas juste francophone, mais la meilleure chose pour sucrer n'importe quel plat, c'est du sirop d'érable. Excusez-moi, mais dans mon café, c'est du sirop d'érable. Sur mon yogourt, c'est du sirop d'érable. Alors, c'est mes quelques petites traditions.
As-tu une autre chanson que tu aimerais As-tu une autre chanson que tu aimerais pratiquer avec nous?
J'aimerais beaucoup. Oui, l'autre chanson que je voulais partager, en fait, c'était... J'ai pensé à l'auteur-compositeur Francis Cabrel, qui, ça fait plus que 40 ans que je l'adore, je l'ai toujours adoré, et j'ai été voir 3 de ses spectacles au fil des années, le dernier, il y a juste quelques, je pense, il y a 2 ans à Montréal, et j'aurais pu suggérer environ 50 de ses chansons, parce que je les adore toutes, et j'ai choisi de ne pas amener aujourd'hui un de ses vieux classiques, parce que je les adore, mais on les écoute souvent, puis à la place, j'ai amené... la chanson « 100 ans de plus ». Puis je vais vous dire pourquoi, après la chanson, pourquoi je l'ai choisie, celle-là.
D'accord.
Cent ans dans la peau de l'esclave, juste après 100 ans de plus. Chercher des miettes sous les tables avant que les blancs ne marchent dessus. Dormir sur des paquets de planches. Chanter seulement le dimanche. Oh, tu vois la femme noire dans le rôle de la bonne. Avec tout à côté, tout tordu, son bonhomme. Après ça, faut pas que tu t'étonnes. C'est eux qui ont fait, eux qui ont fait. Sunhouse et Charlie Patton. Howling Wolf et Blind Lemon. Bien rouge le sang de l'Afrique sur la jolie fleur du coton. La toute nouvelle Amérique, la belle démocratie, welcome. Bateau déportant les villages au bout de l'immense voyage. Oh, gravé dans la mémoire des années-lumière, chaque larme d'ivoire et chaque collier de fer. Après ça, faut pas que tu t'étonnes. C'est eux qui ont fait, eux qui ont fait. Sunhouse et Charlie Patton, Howling Wolf et Blind Lemon. Plaire aux marchands de fantômes,
eux qui ont fait,
elle qu'on achète et lui que l'on donne,
eux qui ont fait,
naître avec la peine maximum,
eux qui ont fait,
toujours vivant dans ce que nous sommes,
eux qui ont fait,
peuple interdit du reste des hommes,
eux qui ont fait,
cherchant le bleu de l'ancien royaume. C'est eux qui ont fait, faut pas que ça t'étonne. Sunhouse et Charlie Patton, Blind Blake et Willie Dixon. Marin et Robert Johnson, Howling Wolf et Blind Lemon, Sunhouse et Charlie Patton.
Pourquoi aimes-tu cette chanson?
Cette chanson-là en particulier, bon, en partant, je vais dire que j'aime beaucoup Francis Cabrel à cause de sa superbe voix, mais aussi parce que c'est un raconteur. C'est un poète raconteur. Puis il y a toujours un beau message, pas toujours, mais souvent un message profond dans ses chansons qui vaut la peine d'être écouté. Puis moi, j'aime bien écouter de la musique qui m'amène quelque chose, qui raconte des histoires. Cette chanson-là, pour moi, parle beaucoup de résilience. Alors, ça parle d'esclavage, ça parle de résilience, comment même les personnes qui passent à travers des épreuves tellement difficiles vont donner naissance à des choses tellement belles, comme de la super belle musique, de l'art incroyable. Ils vont être des gens qui vont devenir des shakers, des gens qui vont faire des gros choses dans la vie. Donc, pour moi, c'est une chanson qui rappelle que, ouais, on a des gros moments dans la vie, parfois, pour certains groupes, pour certaines personnes, et puis qu'il y a beaucoup de résilience. Et comme je disais, Francis Cabrel, moi, je l'adore tout simplement.
Peux-tu nous partager un lieu insolite ou secret que tu aimes ici dans la vallée?
Un lieu insolite dans la vallée. J'ai trouvé ça difficile à trouver un endroit secret. Puis je pense que si j'en avais un, je le dirais pas. Parce que tout le monde le trouverait, puis ce serait plus un endroit secret. Mais je trouve que notre vallée, c'est un endroit secret en tant que tel. Parce que les gens du Sud connaissent pas à quel point on a un trésor incroyable ici dans la vallée. Puis ils pensent qu'on vit loin, ils pensent qu'on est dans un endroit isolé où ça ne vaut pas la peine d'aller, puis en fait, on est assis, on vit dans un petit paradis incroyable, on a tellement qui nous est offert, on a beaucoup d'opportunités pour faire des récréations, plein d'activités. Donc, je trouve que mon endroit secret, c'est notre vallée qu'on partage ensemble. Puis c'est facile d'aller s'isoler sur un sommet de montagne, aller se trouver un petit lac en quelque part, une petite chute, puis de le faire devenir notre petit endroit secret sans qu'on ait besoin d'en faire un grand événement. Donc, ouais.
Quelle est ta relation avec les organismes communautaires francophones en Colombie-Britannique? Es-tu membre de certains organismes?
Les organismes communautaires francophones, pendant plusieurs années, c'était au début de quand je suis déménagée ici à Smithers, je faisais partie de l'AFNO, l'Association des francophones et francophiles du Nord-Ouest. Puis ça me permettait de rester connectée, de voir les activités qui s'organisaient pour les francophones et francophiles. Francophones et francophiles du Nord-Ouest. Puis ça fait plusieurs années à présent que je ne suis plus membre, mais je garde quand même un œil sur ce qui se passe. Sinon, je ne suis plus vraiment impliquée, mais dès que j'ai l'opportunité d'écouter la radio francophone, la télévision francophone, ce n'est pas des organismes communautaires, mais j'en profite dès que je peux. Ce qui me manque ici, c'est de ne pas avoir accès à Radio-Canada francophone. Ça me manque énormément. Aussitôt que j'approche de Prince-Georges, à 20 minutes, je me branche sur Radio-Canada. Même chose quand j'approche de Terrasse et quand je suis dans le Grand Vancouver. Mais ici, bon, je vais sur l'Internet puis je me branche sur la radio et sur la télévision de cette façon-là.
Merci, Nathalie, pour ces réponses.
Retournant à la question, quel est ton travail? Ben, pas vraiment, mais Est-ce que tu voyages à ton travail?
Ben, je voyage à l'occasion pour mon travail. C'est sûr que pendant COVID, j'ai arrêté de me promener. Mais sinon, je vais donner des formations un petit peu partout dans l'ouest du Canada. Et comme j'ai mentionné, j'ai la grande chance de pouvoir voyager au Nunavik, donc le territoire inuit au nord du Québec. Et j'ai la chance de voyager, de me promener de village en village là-bas et d'aller donner des formations. Ça, j'aime ça beaucoup. Et puis, j'ai aussi la chance de voyager aux États-Unis vers l'Oregon ou plusieurs États pour aller donner des formations et rencontrer mon équipe de travail. Donc, puis parfois aussi dans la région ici, dans le bout de Vancouver. Donc, oui, je suis chanceuse d'aller rencontrer des gens un petit peu partout pour faire des formations.
Quelle est la troisième chanson que tu as choisie? Peux-tu nous parler de cette chanson?
Oui, bon, ben, pour la troisième chanson, ça a été difficile aussi. J'essaie de trouver un thème. Je me suis dit, il faut que je mette un petit peu de traditionnel québécois dans tout ça. Et j'ai décidé de choisir le groupe Mes Aïeux. Et avec Mes Aïeux, c'est un groupe que j'ai beaucoup écouté avec mes filles. Et la chanson que j'ai choisi celle-là parce que la fin, qui est tout en instrumental, on dansait tellement sur cette partie de tune-là ensemble avec les filles. Et puis le début, ben, ça amène des thèmes qui sont intéressants à discuter. Parce que ça parle de comment les mœurs ont changé au fil des années, comment qu'on peut être nostalgique, mais qu'en fait, nos mœurs à présent sont aussi bons que les anciennes mœurs, ils ont juste changé nos façons de faire. La chanson peut nous laisser croire que c'était mieux autrefois que ça l'est à présent, mais moi, quand j'en parlais avec mes filles, je me disais, ben, c'est pas vrai, c'est juste que les temps ont changé, puis ce à quoi on donne la valeur, ben, ça a évolué avec le temps et c'est différent. Donc, la troisième chanson que j'ai choisie, c'est « Mes aïeux » avec la chanson « Dégénération ».
Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire.
Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire. Dans ton petit 3,5, ben trop cher, frais ton hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire. Et tu rêves la nuit d'avoir ton petit lapin de terre.
Ton arrière-arrière-grand-mère, elle a eu 14 enfants. Ton arrière-grand-mère en a eu quasiment autant. Et puis ta grand-mère en a eu 3, c'était suffisant. Ta mère en voulait pas, toi t'étais un accident.
Et puis toi, ma petite fille, tu changes de partenaire tout le temps. Quand tu fais des conneries, tu t'en sauves en avortant. Mais y a des matins, tu te réveilles en pleurant. Quand tu rêves la nuit d'une grande table entourée d'enfants. Et puis ton grand-père, miracle, est devenu millionnaire. Ton père en a hérité, il l'a tout mis dans ses REER. Et puis toi, petite jeunesse, tu dois ton cul au ministère. Pas moyen d'avoir un prêt dans une institution bancaire. Pour calmer tes envies de hold-up et la caissière, tu lis des livres qui parlent de simplicité volontaire. Et puis toi,
Merci Nathalie d'avoir échangé avec nous aujourd'hui.
Au revoir et à la semaine prochaine.